Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre Mémoire de guerre, tome 1, elle appelle 1940-1942, est le premier volume des Souvenirs de guerre de Charles de Gaulle. Publié à l'origine en 1954 puis réédité en poche, l'ouvrage relève à la fois du mémorial historique et du témoignage politique. Il couvre les années décisives où la France s'effondre militairement, où l'armistice divise le pays et où de Gaulle choisit Londres pour organiser la France libre. Le livre ne se limite pas à raconter des événements, il expose la lecture que son auteur fait de la défaite, de la légitimité nationale et du rôle d'un chef en temps de crise. Son intérêt tient autant à la précision du contexte qu'à la construction d'une parole de résistance, ferme et très personnelle. C'est un texte essentiel pour comprendre la genèse du gaullisme, la rupture avec Vichy et la manière dont de Gaulle entendait défendre l'idée de la France au milieu du désastre européen. Je vais vous présenter les points clés de ces livres. Premièrement, la débâcle de 1940 comme crise militaire, politique et morale. Le premier rapport du livre est de relire la défaite française non comme un simple revers militaire, mais comme une faillite globale. De Gaulle insiste sur l'inadaptation de l'appareil militaire, sur la rigidité des conceptions défensives et sur l'aveuglement d'un pays encore marqué par la guerre de 1914-1918. Cette analyse donne au récit une portée plus large qu'un témoignage personnel. Elle transforme l'épisode de 1940 en diagnostic sur les erreurs d'organisation, de doctrine et de préparation. Le texte montre ainsi que l'effondrement des armées s'accompagne d'un désarroi politique et moral, ce qui explique la rapidité de l'armistice et la division des élites. L'intérêt du livre est de faire sentir que, pour de Gaulle, la défaite ne est pas seulement tactique. Elle touche la capacité d'un régime à penser l'avenir. Le lecteur comprend alors pourquoi l'appel à la résistance ne relève pas d'un élan improvisé, mais d'une rupture réfléchie avec un système jugé épuisé. Deuxièmement, l'appel du 18 juin est la fondation d'une légitimité de la France libre. Le cœur symbolique du volume est l'appel lancé depuis Londres après l'effondrement de juin 1940. De Gaulle y construit une légitimité qui ne dépend ni du territoire contrôlé, ni de la soumission à un gouvernement en place, mais de la continuité de la nation et du refus de la capitulation. Le livre fait comprendre comment une parole solitaire devient acte fondateur. Elle rassemble autour d'elle une minorité de volonté résistante et donne naissance à la France libre. Cette dimension est essentielle, car elle montre que l'autorité gaullienne naît d'abord de la décision de ne pas accepter l'inacceptable. Le récit met aussi en évidence la tension entre isolement et responsabilité de Gaulle, se présente comme seul face à l'abandon général, mais cette solitude devient la condition d'une légitimité supérieure. Le livre éclaire donc la construction d'un pouvoir politique fondé sur l'obstination, la fidélité à l'État et la conviction qu'une France combattante doit continuer d'exister malgré la défaite territoriale. Troisièmement, une autobiographie politique qui défend une certaine idée de la France. L'ouvrage N n'est pas seulement un récit d'événements, C est une défense de la vision française de Charles de Gaulle. À travers son style et ses choix de narration, l'auteur cherche à montrer qu'il agit au nom d'une idée supérieure de l'intérêt national. Cette dimension rend le livre très différent d'une chronique neutre, car chaque épisode est interprété à partir d'une conception exigeante de l'indépendance, de l'honneur et de la continuité historique. Le lecteur voit apparaître la cohérence d'un homme qui refuse à la fois la résignation et la collaboration. Le texte éclaire aussi le rapport de De Gaulle à l'histoire. Il se situe dans une longue durée, où la nation doit survivre aux défaites comme au régime. Cette manière d'écrire donne au témoignage une dimension quasi institutionnelle, comme si la parole personnelle visait à rétablir une vérité publique. C'est précisément ce mélange de mémoire, de justification et de vision d'État qui fait la singularité du volume. Quatrièmement, le portrait d'un chef isolé face aux institutions défaillantes. Le livre met en scène la figure d'un dirigeant qui doit agir sans base stable, sans appareil politique assuré et souvent contre l'avis des pouvoirs établis. Cette solitude n'est pas présentée comme un simple trait psychologique, mais comme une condition du leadership en période de rupture. De Gaulle expose les résistances rencontrées, l'indécision des responsables, les accommodements avec Vichy et la difficulté de faire reconnaître une autorité française depuis l'exil. Le récit prend alors valeur d'étude sur la décision politique quand les institutions vacillent. Le chef ne peut compter que sur la cohérence de ses principes et sur la force de sa parole. L'intérêt de ce thème est qu'il relie l'expérience individuelle à une réflexion plus générale sur la responsabilité. De Gaulle ne décrit pas seulement ce qu'il a vécu. Il montre comment on gouverne lorsque tout semble perdu. Le livre devient ainsi un manuel implicite de fermeté politique, où l'action prime sur les compromis et où la légitimité se conquiert par l'engagement. En dernier lieu, une écriture littéraire au service du témoignage historique, un des traits les plus remarqués du volume, est la qualité de son écriture. Le texte combine rigueur du récit, sens de la formule et ampleur oratoire, ce qui lui donne une force particulière dans le champ des mémoires de guerre. Cette écriture n'est pas un simple embellissement, elle participe pleinement à la fonction de l'ouvrage. En donnant une forme maîtrisée à des événements chaotiques, De Gaulle impose un ordre intellectuel et moral au désastre. Le style soutenu contribue aussi à distinguer le témoignage du document brut, car il construit une autorité de voix et une distance de jugement. Le lecteur est ainsi amené à voir dans ce livre non seulement une source historique, mais aussi une œuvre de littérature politique. Ce mélange explique que l'ouvrage soit souvent lu à la fois pour ce qu'il dit de 1940-1942 et pour la manière dont il le dit. La force du texte réside justement dans cette capacité à transformer l'expérience nationale en récit dense, cohérent et mémorable. En conclusion, Mémoire de guerre, tome 1. L'appel 1940-1942 s'adresse d'abord à ceux qui s'intéressent à la Seconde Guerre mondiale, à la France libre, à l'histoire politique française et à la pensée de Charles de Gaulle. Il conviendra aussi aux lecteurs qui cherchent à comprendre comment un chef construit une légitimité en période d'effondrement et comment le récit personnel peut devenir un instrument d'interprétation historique. Le livre apporte un double bénéfice intellectuel parce qu'il éclaire la crise de 1940 avec une grande cohérence d'analyse et littéraire, parce qu'il offre une prose fortement maîtrisée, devenue emblématique. Ce qui le distingue de beaucoup d'autres mémoires de guerre, c'est qu'il ne se contente pas de raconter des souvenirs. Il défend une vision de la France, de l'État et du devoir national. Le texte prend ainsi place à la frontière du témoignage, du manifeste politique et de l'œuvre d'écrivain, ce qui en fait une référence durable pour comprendre la naissance de la France libre et la formation du gaullisme. Si vous souhaitez soutenir Charles de Gaulle, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.